Donc, bonjour à tous. Nous sommes de retour avec un nouvel épisode de Checkpoint, le podcast où des passionnés partagent leur expertise pour élargir vos horizons sur différents sujets, un mercredi sur deux à 8h. Et aujourd'hui, on accueille Thiago. Thiago, comment ça va?
Bah écoute, ça va super bien, merci pour l'accueil.
Bah, mec, c'est un plaisir. T'es une des premières personnes que je voulais interviewer et au final, tu passes que dans le cinquième Checkpoint. Mais c'est pas grave.
Ah, c'était question de logistique, c'était pour parler du sujet bien comme il faut.
Alors,
Et ouais.
ouais, exactement. Vas-y, bah, est-ce que tu peux dire le sujet sur lequel tu vas parler?
Alors aujourd'hui, je vais essayer d'apporter mon expertise sur le basketball américain, notamment la ligue du coup américaine, la NBA. Expliquer comment ça marche. Pourquoi ça marche autant? Pourquoi les jeunes s'y intéressent de plus en plus et pourquoi ça explose ces dernières années?
Ok, donc on part sur un petit exposé de Thiago, let's go. Donc ouais, comme Thiago l'a dit, on va parler aujourd'hui de NBA. Je dis on parce que c'est un sujet où je suis aussi bien calé. Donc promis, on va essayer de pas partir en discussion là-dessus et plus, en fait, vous essayer de vous vulgariser le sujet.
Mais c'est pour ça que je suis content de le faire avec toi, parce que du coup, comme tu connais aussi.
Bah, je peux au cas où
Ouais, c'est
si
ça.
tu dis peut-être une connerie ou un truc comme ça, ou je peux rebondir. Donc ça va être très intéressant. Bah d'ailleurs, on va commencer. Première question. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter en fait en parlant ici? Parce que là, tu nous as un peu dit, oui, je vais vous parler de ça, ça, ça. Mais est-ce que tu trouves ça vraiment intéressant et qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter?
Je pense pouvoir apporter pas plein de trucs parce que c'est pas un sujet où je m'y connais à fond. Hein. J'ai commencé à me renseigner sur le sujet il y a que 2 ans maximum. Mais en fait, c'est un fonctionnement de ligue et même en dehors de la ligue assez spécial. Parce que par exemple, tu as 82 matchs dans une saison, donc faut pouvoir les gérer, il faut établir des calendriers. Tu as deux conférences, donc faut pas que les équipes puissent se jouer en même temps. Tu as des systèmes de draft, j'en reviendrai après. Pour justement les nouveaux jeunes talents, pour qu'ils se fassent repérer, des partenariats avec des marques, t'as plein de trucs. Et comme les horaires de match sont assez tard, il n'y a pas beaucoup de Français ou même d'Européens qui s'intéressent à pouvoir regarder les matchs.
Alors là, déjà, c'est parfait ce que tu nous as dit. Une ribambelle de mots techniques. Donc, on va essayer de les définir.
T'as vu la technicité?
J'ai vu la technicité. Donc voilà, tu nous as parlé de conférences, de franchises, tu nous as parlé de draft. Donc, c'est le premier truc auquel on va parler. On va essayer de vous expliquer vraiment le fonctionnement de la NBA avant même de parler d'autres choses. Parce que si on commence à parler d'autres trucs et que vous comprenez pas exactement ce qu'est la NBA et comment ça fonctionne, ça risque d'être compliqué. Donc, j'ai fait une petite liste de quatre trucs qu'il faut que tu nous expliques. Donc le premier, c'est les conférences. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est les conférences?
Alors, en gros, la NBA, elle est divisée en deux conférences, la Est et la Ouest. C'est simplement pour diviser l'Amérique en deux. Donc, toutes les équipes les plus à l'Est jouent dans la conférence Est et toutes les équipes les plus à l'Ouest jouent dans la conférence Ouest. Après, il y a quelques petites particularités. Certaines équipes à l'Est qui jouent quand même à l'Ouest parce que ça serait pas égal dans les deux conférences sinon. Tu aurais 16 équipes à l'Est et 14 équipes à l'Ouest.
Mais ça, ouais, c'est du détail. C'est que du
C'est du
détail.
détail, mais pour ce qu'on va parler après, par exemple les playoffs, c'est important de pouvoir avoir deux conférences égales et paritaires.
Ouais, ok. Donc voilà pour les conférences. Hein, donc, comme l'a expliqué Thiago, c'est en deux côtés pour que. Et d'ailleurs, bah, t'as pas expliqué, mais qu'est-ce que ça change d'être dans une conférence à l'autre?
Globalement, ça change pas grand-chose en soi. Sauf que les équipes de la conférence Est vont affronter les équipes de la conférence Ouest 2 fois. Donc une équipe de la conférence Est, par exemple, je prends une équipe au hasard, les Atlanta Hawks, pardon, vont jouer toutes les équipes de la conférence Ouest 2 fois maximum, alors que le reste du calendrier, du coup, ils vont jouer toutes les équipes de la conférence Est pour combler.
C'est ça, donc on va avoir par exemple un match-up un peu connu, on va prendre New York-Los Angeles. New York va se déplacer une fois à Los Angeles, Los Angeles va se déplacer une fois à New York vu qu'ils sont pas dans la même conférence. Par contre, New York va affronter Boston 5 fois
C'est
parce
ça.
qu'ils sont très très proches géographiquement.
Alors, il y a des petites. Enfin, maintenant, du coup, cette année, il y a une nouvelle petite exception avec le nouveau tournoi qu'ils ont créé, le play-in. Ça fait un peu comme les play-offs, j'expliquerai plus tard. Et du coup, tu peux réaffronter une équipe de la conférence. Enfin, une équipe de la conférence Ouest peut réaffronter une équipe de la
Ouais,
conférence
avec
Est en
le
finale 1 fois.
pas le play, le play-in, le in-season tournament.
Ouais, une saison. Ah
Ça,
oui, une saison
c'est un truc
tournament.
compliqué. Je pense même pas qu'on
Ok.
aura le temps, entre
Bah,
guillemets,
de
d'en
toute façon,
parler. On
c'est pas
verra.
assez développé pour en parler. Ils
Ouais,
sont
c'est
encore
ça.
phase
C'est
en version bêta.
ouais, ça. Il y a eu que une saison pour l'instant de ça. Donc, c'est très compliqué d'en parler, d'avoir un vrai avis dessus et de pouvoir même l'expliquer parce que même nous, on a galéré à comprendre au
Ouais,
début parce
c'était pas
que c'est vraiment
simple.
une galère. Est-ce que maintenant, tu peux nous expliquer le mot et en fait l'appellation franchise? Pourquoi on ne dit pas club comme en France?
Je t'avoue que même moi, je suis pas trop familier avec la nuance. Je t'avoue, je pourrais pas te l'expliquer.
Alors, je vais le faire. Parce que, du coup,
Ouais.
pourquoi, quelle est la différence entre une franchise et un
J'ai pas
club?
fait mes devoirs, j'ai pas révisé.
Donc, le club, en fait, c'est forcément quelque chose qui est rattaché géographiquement. Donc, on prend l'exemple du foot en France. On parle du Paris Saint-Germain. C'est l'équipe, enfin, elle est basée sur le fait que elle soit à Paris. Elle est basée à Paris. Marseille, l'Olympique de Marseille, c'est basé sur le fait qu'elle soit à Marseille. Sauf que en NBA, le truc qui compte le plus, ce n'est pas le nom de la ville, mais plus le nom de la franchise. On va reprendre l'exemple des Los Angeles Lakers, qui est sûrement une des équipes les plus mythiques. On parle d'abord des Lakers avant de parler de Los Angeles. Bon, là, on parle d'une équipe qui ne bougera sûrement jamais de Los Angeles parce que maintenant les deux ne
Non,
font
mais
plus
avant, elle
qu'un.
avait bougé. Avant, elle n'était pas à Los Angeles.
Elle s'appelait comment?
Mais Minneapolis.
Voilà, donc, pareil, bah, nickel. L'exemple avant, Minneapolis, Lakers. Donc, en fait, le mot franchise, c'est vraiment le truc le plus important. Et en fait, c'est
Ça.
plus la franchise qui choisit sa ville.
Ouais, c'était justement, c'était
Est-ce
à
que
Minneapolis.
t'as d'autres exemples ou pas?
Ouais, actuellement, les Memphis Grizzlies, avant, c'était les Vancouver Grizzlies. Ils étaient établis, du coup, dans le Canada, à Vancouver. Et comme le marché n'était pas vraiment développé, et en plus, l'équipe performait pas. Ils ont décidé de se délocaliser pour se créer une nouvelle image, s'apporter de nouveaux fans à Memphis, du coup, aux États-Unis.
Ok, bah d'ailleurs ouais, donc petite spécificité, on n'en a pas vraiment parlé, mais la NBA, c'est pas, enfin c'est aux États-Unis dans la grande partie, mais on a
Le Canada
une
aussi, ouais.
équipe au
Deux?
Canada. On n'a que Toronto maintenant. Avant il y avait Vancouver
Oui,
aussi,
non, bien vu.
mais maintenant il y a que Toronto, donc il y a une équipe canadienne. Donc voilà, c'est plutôt l'Amérique du Nord plutôt que les États-Unis. Ok. Alors là maintenant on va passer sur le truc le plus compliqué, je pense. Est-ce que tu peux expliquer les playoffs et les play-in aussi.
Alors, c'est pas vraiment compliqué, hein. Donc, au cours de la saison, il y a 82 matchs. Et les six premières équipes dans les conférences Est et Ouest sont qualifiées directement pour les playoffs. Un tournoi, du coup, de fin de saison qui permettra, du coup, à la fin de ce tournoi encore plus, de déterminer le grand gagnant de la saison. Et avant, ils prenaient les 8 premiers de la conférence pour faire ces playoffs. Mais ils ont décidé de faire un tournoi dans le tournoi, donc les play-in, en stoppant du coup les qualifiés à 6 et en prenant les 4 autres de 6 à 10 en les faisant s'affronter eux-mêmes pour déterminer deux équipes en plus qui auront en play-off.
Et après, on a donc le premier et le huitième, donc celui qui est sorti des play-in en deuxième, qui jouera le premier, le deuxième qui jouera le septième, etc. Donc après, c'est logique là-dessus. Sauf qu'il y a une autre spécificité, c'est que chaque tour de play-off, donc ça commence techniquement en quart de finale, du coup, de conférence. Donc chaque conférence se joue, et en fait, on va dire que c'est comme s'ils choisissaient leur champion, c'est que celui qui battra toute sa conférence dans les play-offs jouera les finales NBA contre le grand gagnant de l'autre conférence. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on a eu cette année? On a eu Denver Nuggets qui joue à l'Ouest,
Contre
qui a
les Beats.
battu toute sa conférence et ensuite qui a affronté les Miami Heat
En finale.
en finale, donc
Qui, eux, d'ailleurs,
conférence
Miami
Ouest.
Heat, étaient donc dans le play-in. Ils avaient été qualifiés 8e, du coup, dans leur saison régulière, qui est pas une place pas mal. Et ils ont fait l'exploit, première fois all-time, d'arriver en finale en étant 8e de conf.
Ouais, ça c'était assez exceptionnel. Et il reste un dernier truc, c'est que ça ne se joue pas que sur un match, sauf les play-in qui se
Non.
jouent sur un match. Quand on arrive au play-off, il faut 4
Ça
matchs gagnés.
se joue en 4 matchs gagnés et du coup ça peut aller jusqu'en 7 matchs et faire des séries assez tendues.
Donc voilà pour les play-offs. J'espère que c'était plutôt clair. Et enfin, aussi un truc un peu compliqué, mais un truc où la France en a pas mal entendu parler, du coup l'année dernière, c'est la draft.
En fait, du coup, la draft, c'est un système de recrutement fait pour les franchises qui ont mal performé, on va dire. Toutes les franchises ont le droit à drafter, du coup, qu'est-ce que c'est la draft? Toutes les années, en juin-juillet, tous les jeunes de tous les pays, hein, mais plus l'Amérique, parce que c'est beaucoup plus développé là-bas, vont s'inscrire du coup à la draft. C'est des sortes d'entraînement. Toutes les franchises, en fait, vont regarder tous les jeunes qui ont performé dans tout le monde entier, et du coup, se dire, pourquoi on ne recruterait pas celui-là l'année prochaine pour le développer et l'avoir dans notre franchise? Et du coup, t'as une sorte de propagande du coup qui se fait toutes les années avec les meilleurs jeunes enfin, du pays, donc l'Amérique, ou même du monde entier, par exemple avec Victor Wembanyama l'année dernière, le premier Français du coup qui a été drafté en première position, ce qui est quand même assez incroyable. Et du coup, la draft se divise en deux tours. Le premier tour, Du coup, ça va de 1 à 30. Donc, il y aura 30 joueurs draftés. Et eux, ils sont garantis d'avoir un contrat avec la franchise qu'il a drafté. Donc, ils sont garantis de pas se faire couper
de jouer
pendant 2 ans minimum, je crois, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça.
Alors qu'au deuxième tour, du coup, ça va de 30 à 60. Et les joueurs qui seront draftés n'ont aucune garantie. Genre, leur nom se fait appeler, mais ils sont pas sûrs d'avoir un contrat et de jouer avec la franchise. Ça se trouve, bah, ils vont pas le signer et va devoir se retrouver à trouver un plan B. Voilà.
Donc, en plus, ce qui est entre guillemets génial avec ce système, c'est que c'est pour ça que la NBA est une ligue fermée, c'est-à-dire il n'y a pas d'équipe qui descend ou qui monte, il n'y a pas de système de relégation, pas de promotion. Et pour améliorer les équipes faibles, on leur offre entre guillemets le choix du...
Le Graal, les meilleurs joueurs du monde entier. Les meilleurs jeunes joueurs du monde entier. Parce que la draft, c'est de 19 à 22 ans.
Tu 23, peux pas... je crois, aux États-Unis, non ?
Je crois que c'est 22. Ah oui, quand t'es américain, c'est 23 ans. Au-delà de 23 ans, tu peux pas t'inscrire.
Voilà, donc après, bon, c'est...
Et tu peux pas t'inscrire deux fois à la draft.
On va pas rentrer dans les détails, comment on rentre dans l'NBA si on est plus vieux, mais voilà, donc on peut pas s'inscrire à la draft deux fois, donc c'est une fois dans une vie, en gros. Et on a des, bah, du coup, comme il l'a dit, ouais, Victor Wembanyama l'année dernière, qui a été choisi en première position, donc par une des équipes qui avait le moins performé la saison d'avant, et qui est bah, les San Antonio Spurs, qui est peut-être, je pense, la franchise en vrai la plus connue de France.
De France, ouais, je pense.
Derrière peut-être les Lakers, ou tu vois, mais ça fait partie des trois franchises les plus connues, je pense, parce que bah, forcément, Tony Parker, etc., cette époque. Voilà. Et cette année, est-ce que tu peux un peu nous parler très légèrement des jeunes qu'il y a cette année ?
Alors, cette année, c'est une draft plutôt française. J'appelle une draft française parce qu'on va avoir 5 joueurs français qui sont projetés pour être draftés du coup dans le premier tour, donc être garantis d'avoir un contrat pour l'année prochaine en NBA. Donc, on a Alexandre Sarr, Zachary Rizaché, qui, eux, sont garantis d'être draftés dans le top 5, donc ce qui est quand même vraiment pas mal. Et après, on a d'autres noms comme Tijan Salone. J'ai oublié les deux autres.
Noah Sarangue,
et après, le dernier, je ne l'ai pas, j'avoue.
Moi non plus.
Mais voilà, donc c'est une draft plutôt française. C'est une draft qui n'est pas, pas attendue comme une draft exceptionnelle, parce qu'il n'y a pas beaucoup de talent, mais après, développer, ça serait rentrer dans des gros détails.
Voilà, parce qu'on passe d'une année où on a Victor Wembanyama qui est considéré comme un des plus gros, donc là on va utiliser un petit mot technique que je vais expliquer, un des plus gros prospects de tous les temps. C'est-à-dire c'est un joueur, en gros c'est, on le voit et on dit c'est un des plus grands potentiels, j'utilise le mot prospect à cause de...
Ça simulait sa carrière avant qu'elle se passe.
Ouais c'est ça, et en fait tout le monde lui donne un grand avenir, donc c'était une draft assez exceptionnelle, parce qu'il y avait beaucoup de talent et exactement comme tu l'as dit, cette année ça paraît un peu moins bon. Mais on verra après sur la suite, hein, mais elle fait moins rêver, en tout cas, cette draft-là.
Les franchises peuvent moins se projeter en disant bah, « Lui, ça va être notre franchise player, du coup le joueur le plus important de la franchise, pendant 15 ans, avec les joueurs qui arrivent. »
C'est ça. Donc voilà, on a des... là, on va commencer à en parler un peu. On a eu des belles histoires, hein, des joueurs qui sont draftés par leur club qui était... Enfin, par leur franchise qui était vraiment au plus bas et d'un coup qui remonte ou qui
explose. Ont
un joueur exceptionnel. On a évidemment... Bah, est-ce qu'on peut commencer à en parler là, en historique ? On va peut-être parler de la carrière du deuxième, peut-être plus grand joueur de tous les temps, LeBron James.
Le deuxième
ou le premier, ça dépend. Des gens le mettent devant Michael Jordan, d'autres non, mais bon, ça c'est encore un autre débat.
Ouais.
C'est un débat parallèle. Mais est-ce que tu peux un peu expliquer comment la draft et comment la première équipe de LeBron, parce qu'il a changé quelques fois, lui ont permis d'exploser et de faire exploser sa franchise ?
Comment, répète la question s'il te plaît.
Avec donc la carrière de LeBron.
Mm-hmm.
Ok. En quoi là tu vois c'est pour donner un vrai exemple du système de draft. Donc est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est passé tu vois.
Comment avant la draft et après la draft ça s'est passé pour lui.
C'est ça.
Alors avant la draft en fait il était attendu comme un des meilleurs prospects de tous les temps. Il avait une hype de ouf. Je sais pas si le mot hype est bien choisi.
Non le mot hype c'est bon.
Ok. Il avait une hype de ouf. Tout le monde l'attendait. Tout le monde le voulait dans sa franchise. L'année avant sa draft, les équipes les moins fortes pratiquent le tanking, c'est-à-dire faire perdre des matchs exprès pour pouvoir être bien classé dans la draft. Ouais. On n'a pas évoqué la loterie.
Ça, c'est pas grave, c'est un détail. Pas besoin de trop l'expliquer, les gens comprendront. Ou en fait, c'est rajouter un truc compliqué, alors qu'en soi, c'est...
Ok.
Voilà, ça c'est pas grave.
Donc avant sa draft, les équipes les plus nulles qui aspiraient pas à partir en playoff pratiquaient le tanking, donc faire exprès de perdre pour avoir le plus de chances de pouvoir avoir le pick numéro 1 et du coup prendre LeBron James, faisaient exprès de perdre. Et c'est les Cleveland Cavaliers qui se sont qui ont eu le plaisir de pouvoir le drafter en première position. Et ce qui a marché, parce que dès la troisième année, ils ont retrouvé les playoffs et même les finales NBA. Ce qui était jamais, ce qui était arrivé, si, mais 30 ans avant, je crois.
Voilà, donc on passe d'une franchise qui a été
moyenne,
bas fond de la NBA depuis un moment. Et bam, tu draftes LeBron James et ta franchise monte parce que après, forcément, enfin, c'est bête à dire, mais tout va autour. Le côté marketing, parce que t'as quand même un joueur exceptionnel, la vente de maillots, etc. Même les autres joueurs de la ligue, les professionnels, les grands joueurs, se disent, mais j'ai envie de jouer avec LeBron James.
C'est surtout que tu deviens une des équipes les plus aimées par les jeunes du pays, genre.
Ouais, c'est
parce que c'était une idole pour les jeunes américains, surtout les jeunes de Cleveland.
Exactement.
Donc, t'es sûr de te garantir, peut-être pas un avenir compétitif, pardon, mais un avenir de marque, un avenir financier.
Comme Wembanyama aux Spurs actuellement. Voilà, c'est à peu près la même chose. Maintenant, on va parler un peu de tes goûts à toi. Et est-ce que tu pourrais me parler d'une ou plusieurs franchises que tu apprécies pour son histoire, ses joueurs, en fait, ce que tu veux, leur palmarès, je ne sais pas, mais est-ce que tu peux présenter certaines franchises que toi, t'aimes bien?
Alors, ma franchise préférée actuellement, et je pense que ça le restera, c'est la Nouvelle-Orléans, donc les New Orleans Pelicans. C'est une équipe de Nouvelle-Orléans, du coup, qui a eu quelques petits changements au cours des années. Elle n'a pas été très stable. Ça fait 10 ans que maintenant elle est stable. Elle a connu, du coup, de la délocalisation.
Mm-hmm.
Comme on avait dit au début, par exemple, on avait pris l'exemple de Vancouver. Elle n'a pas gardé son identité de franchise. Avant, ça s'appelait la Nouvelle-Orléans Hornets. Et après, du coup, c'est devenu la Nouvelle-Orléans Pelicans. Et du coup, il y a 5 ans, elle a drafté un joueur exceptionnel du nom de Zion Williamson, qui est mon joueur favori, du coup. Et c'est pour ça que je m'intéresse à cette franchise. C'est Zion Williamson qui m'a fait aimer le basket. Voilà. Okay. Donc, pour moi, c'est ma franchise de cœur. Elle n'a pas vraiment d'histoire. En franchise, qui a une histoire, on pourrait du coup évoquer Cleveland. Ouais, bah si, je vais évoquer Cleveland, carrément. Du coup, Cleveland Cavaliers. Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est une équipe qui était rien au début. Elle a drafté LeBron James en 2003. Elle s'est retrouvée au top en 2008. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à concrétiser, gagner les playoffs. LeBron James s'en est allé en 2010. Il n'a pas re-signé de contrat.
Ouais, il est parti.
Et il est parti sans gagner de titre. À ce moment-là, la ville, c'est un chaos total. Ça brûle ses maillots. Ça le traite de traître, du coup.
Ouais.
Ça veut vraiment, ça lui veut du mal. Et du coup, LeBron James est parti dans une autre franchise faire ce petit bail. Voilà, il a gagné quelques petits titres.
À Miami en plus.
À Miami, sympa.
Hein, West Coast. Ouais, ça. Non, East Coast du coup.
Ouais, East Coast, c'est ce que j'ai dit. Et il est parti à Miami faire gagner ses MVP, gagner ses premiers titres, ouais, en formant une équipe de ouf. Et il est revenu à Cleveland, je sais plus si en 2014 ou en 2015, en promettant à la ville que pour se racheter, il gagnerait un titre.
Et
là,
c'est ce qu'il a fait.
Une histoire incroyable en découle. Ils affrontent la meilleure équipe de tous les temps, je pense.
Ouais.
En finale pendant 4 ans d'affilée.
Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était assez exceptionnel.
L'équipe de San Francisco, les Golden State Warriors.
Ouais. Je pense que les gens connaîtront parce que il y a un légendaire joueur maintenant qui a une influence aussi grande, je pense, que celle de LeBron James actuellement, c'est Stephen Curry. Voilà. Donc
Il a changé le basket.
Maintenant, à cause de lui ou grâce à lui, qui est un shooter exceptionnel à 3 points, qui se limite même pas à la ligne, qui est assez exceptionnel. En fait, il a changé la manière de jouer en NBA. En fait, aujourd'hui, on a très peu de tirs à mi-distance, c'est-à-dire entre le 3 points et le panier, des tirs à 2 points. Parce qu'en fait, les gens se sont dit...
Lui a réussi, pourquoi je pourrais pas réussir?
Ouais, c'est ça. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes joueurs en fait qui ont été influencés par Stephen Curry. Mais bon, là, on s'égare un peu.
Donc je disais, ouais, LeBron James, du coup, il revient à Cleveland. Qu'est-ce qui s'est passé à Cleveland entre-temps? Leur bilan était tellement mauvais qu'ils ont eu 2 autres choix de première position. Un avec Kyrie Irving, un dribbleur d'exception, un meneur d'exception. Et un flop, voilà, on va pas en parler, Anthony Bennett.
Donc un mec nul, un mec qui...
Un mec qui était projeté du coup premier de sa draft, mais avec toutes les attentes pesées sur lui, il a pas réussi à se développer, donc un flop. Et du coup, LeBron James, il arrive en 2015 dans une équipe où il y a Kyrie Irving, il affronte les Warriors, première année, ils perdent. Deuxième année, c'était parti pour perdre, du coup en finale de playoff, ils perdaient 3-1. Et là, en finale, NBA perdent 3-1, c'est jamais bon, et ils se retrouvent à remonter pour gagner 4-3. Et Love, ce titre à la franchise.
C'est jamais arrivé en plus, c'est la première.
C'est jamais arrivé de l'histoire de remonter à un 3-1 en finale NBA. C'est pour ça que, pour moi, la franchise, elle a quand même une petite histoire pas mal. Voilà, pour LeBron James qui revient et qui offre le titre.
C'est ça, c'était assez exceptionnel quand même, c'était beau. C'était vraiment beau.
Bah, je l'ai pas vécu, mais je me suis renseigné de ouf, j'ai regardé plein de storytelling, de vidéos storytelling dessus, et franchement, ça met les frissons même si on n'a pas connu, quoi.
Ouais, c'est clair. Donc, vraiment, c'était assez exceptionnel. Bah, c'est une des périodes de la NBA où le niveau était très très ouf et chaque année, c'était les mêmes équipes qui gagnaient, donc c'était assez exceptionnel. Par exemple, l'année dernière, on a eu deux équipes, l'année d'avant, c'était aucune des deux pareil. Enfin, ça change tous les ans, mais là, pendant 4 ans de suite, on a eu les mêmes équipes des deux côtés, ce qui était vraiment, vraiment...
Mais, je reviens deux secondes, ce qui me fait vraiment kiffer l'histoire, c'est LeBron James, donc, tout seul, avec Kyrie Irving, contre la dynastie des Warriors, quoi, quand même.
Ouais, c'est ça.
Ils avaient les trois meilleurs joueurs du monde, non, les deux meilleurs joueurs du monde dans leur équipe.
Ouais, bah, Kevin Durant, hein, pour les gens qui connaissent un peu le joueur. Et en fait, on appelle ça quand une team est super forte et on comprend même pas comment elle peut avoir tous ces joueurs, on appelle ça une super team.
Ouais.
Et là, bah, effectivement, c'était vraiment une des meilleures équipes de l'histoire. Ça jouait très très bien. Ils avaient.
Mais LeBron James,
c'est
mieux.
C'était n'importe quoi. Mais LeBron James, quoi. LeBron James. Enfin, je vous invite vraiment à regarder des vidéos de ça parce qu'il y a. Bah, y a une action qui a fait un peu le tour du monde, enfin, qui a fait le tour du monde basket, hein, qui est surnommée The Block. Donc, LeBron James qui saute, mais à une hauteur assez, assez légendaire et qui va taper un contre.
En fin de match. Ouais. Si le panier rentrait, ça aurait pu être décisif et sceller le destin des Cleveland Cavaliers.
Mais bref,
on s'égare trop sinon.
Est-ce que t'as envie de nous parler d'une dernière franchise ou c'est bon pour toi?
Pas forcément.
Ok.
J'ai pas d'idée en tête actuellement.
Ok. Ma prochaine question, c'est quel est ton meilleur souvenir de NBA pour l'instant? Parce que on sait, tu me l'as dit tout à l'heure, ça fait que 2 ans que tu suis.
Alors, du coup, j'ai pas de souvenirs à moi à proprement parler, mais des souvenirs que du coup je me suis approprié en regardant les actions des centaines de fois. J'en ai deux dans ma tête. Est-ce que je cite les deux ou j'en cite qu'une seule?
Ah, vas-y, j'ai deux.
Du coup, j'ai en finale de NBA 2013. Du coup, les Miami Heat, l'équipe où LeBron James était à cette période, contre les San Antonio Spurs, pardon, l'équipe de Tony Parker, le français, du coup, qui était le plus connu avant Victor Wembanyama.
Toujours le plus connu, en vrai, peut-être pas.
Non, ouais, je pense non. Pas. Mais bref. Du coup, finale 2013 de NBA, c'était le match 6. Match 6, Miami perdait 2-3 points. Il restait 13 secondes à jouer. Le meilleur shooter de tous les temps à cette époque-là, qui était Ray Allen, est sur le terrain. LeBron James prend un tir à 3 points, le rate. Chris Bosh, le pivot des Miami Heat à cette époque, prend le rebond, l'envoie à Ray Allen. Ray Allen met le 3 points. Il reste 5 secondes. Cleveland qui était en train de perdre, Miami qui était en train de perdre, gagne ce match en prolongation après et gagne le titre NBA. Et pourquoi c'est un beau souvenir et une action qui me fait rêver? C'est parce que c'était la dernière saison de Ray Allen, un joueur que j'apprécie beaucoup.
Et le shoot.
Et il rentre ce shoot clutch. Un des shoots peut-être les plus clutch de tous les
temps. Il est super beau. Enfin, ce gars est super beau à avoir shooté. Et là, du coup, quand tu vois le shoot en ralenti, c'est assez exceptionnel. C'est ouf.
Genre, ce mec a fini sa carrière sur ça, quoi. C'est
sur un titre.
Et sur ce shoot. Ça me fait rêver. Et sinon, deuxième, on va dire, action qui m'a fait le plus rêver. C'est pas une action en elle-même, c'était pas un match en jeu non plus. C'était en 2003 ou 2004, je crois. C'était un joueur qui s'appelait Tracy McGrady, un scoreur légendaire qui pouvait rêver aux mêmes éloges que Kobe Bryant, mais les blessures l'ont arrêté. En 2004, du coup, il joue encore contre les San Antonio Spurs à cette époque.
Les San Antonio.
J'arrive pas à le dire, les San.
Parce que tu prends plus ton temps, mec, tranquille. Hein.
Mais non, mais parce que t'as envie de dire San Antonio, mais San Antonio Spurs, du coup. Il jouait contre eux. Il était aux Houston Rockets en 2004.
Mm-hmm.
Et il restait 35 secondes à jouer. Il perdait, j'ai plus le score exact, mais il perdait de 13 points. Un score à peu près 68-55, je crois. 68, je sais plus. Et du coup, Tracy McGrady rentre dans ses 35 dernières secondes, rate aucun tir, met 13 points en 33 secondes. Et fait gagner le match au Houston Rockets. Ce qui leur permet de rentrer dans une dynamique de ouf et d'accéder aux playoffs.
Ouais.
Et pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Même si c'est personnel, c'est un des meilleurs joueurs à avoir joué de tous les temps.
Ouais, ça, justement, pour que vous vous rendiez compte, Mettre 13 points en 35 secondes, c'est vraiment. C'est jamais arrivé une autre fois dans l'histoire de la NBA, je crois.
C'est Reggie Miller, il avait mis 8 points en 9 secondes.
Ok, okay bon, ça déjà arrive.
Ce qui était fou, c'est qu'il s'était fait interviewer à la fin de la partie. Et un journaliste lui avait dit que si, du coup, il avait gardé ce régime, hein, ce ratio de mettre 13 points toutes les 33 secondes, il aurait fini la partie avec 1000 points.
Ah ouais?
Ouais.
Oh putain, l'histoire est belle, l'histoire est vraiment jolie. Alors, la prochaine question, c'est une question que je le répète à chaque fois, mais c'est une question que je pose tout le temps dans Checkpoint. C'est une question IA, question ChatGPT. Et là, la question est... Bon, de toute façon, tu vas l'avoir, parce que c'est écrit différemment que quand moi j'écris. Quelles sont les perspectives de Quelles sont les perspectives de l'internationalisation de la NBA et son influence sur le jeu et la popularité du basketball dans le monde entier? Oui, c'est compliqué.
Voilà, les gros yeux que je fais. Les perspectives d'internet.
Ouais. En gros, moi, je la comprends comme ça. La question, c'est en quoi l'internationalisation de la NBA joue un rôle majeur sur sa popularité et sur son jeu. Donc, du côté communication, marketing, popularité, et du côté sportif.
Bah, du côté réseau, popularité et tout, c'est pour les jeunes joueurs de basket, du coup, je pense que c'est comme vivre le rêve américain. Ils voient du coup des gens... Bah, par exemple, moi, je vais utiliser cet exemple de draft. Pour les jeunes internationales, ils se disent... Ben, pourquoi je pourrais pas m'inscrire à la draft et faire ma carrière en NBA, tu vois? Genre, la draft apporte cet aspect de je peux réussir là-bas. Et donc, les jeunes se disent pourquoi je pourrais pas réussir comme LeBron James? Pourquoi je pourrais pas faire ma carrière et devenir le meilleur joueur de tous les temps?
Ah, et vu que t'as des bons joueurs européens ou d'autres continents qui sont arrivés et qui étaient très très bons, bah, tu te dis ouais, c'est pas réservé qu'aux Américains et du basket non plus.
Mais du coup, ça aussi, c'est un mauvais point un peu. Parce que du coup, je m'y connais pas trop à ce sujet-là, mais du coup, les jeunes joueurs se focalisent sur le jeu NBA, alors que le basket existe dans tous les continents. T'as le jeu européen, qui est plus axé sur la défensive, alors que le jeu américain est plus axé sur l'offensive. Et du coup, les jeunes de tous les pays, maintenant, se focalisent sur jouer comme en NBA et pas jouer au basket. Et pour moi, du coup, c'est pour ça que la NBA, elle a quand même une petite mauvaise influence sur le basket. C'est que maintenant, pour eux, le basket NBA, c'est le basket. Alors que y a d'autres façons de jouer au basket et peut-être des meilleures façons.
En plus, en termes de règles et tout, ma voix qui est un peu fourchée. Même en termes de règles, déjà, le terrain NBA est plus grand.
Je sais pas si ça, je savais pas.
Il est plus grand et plus large.
Je savais que la ligne des trois points était plus reculée en NBA, mais je savais pas qu'il était plus grand.
Alors, terrain, sinon à 0 degré, tu vois, dans les angles, ce serait plus proche. Ce serait comme en France. Mais non, du coup, c'est à peu près 1 mètre plus large.
Ok, je savais pas.
C'est pour ça d'ailleurs que c'est plus facile de marquer en NBA, parce que si tu t'écartes mieux, enfin, t'écartes bien juste, t'as moins de chances de te faire contrer. Et il y a plein de règles comme ça différentes qui, en fait, sont plus axées offensives qu'en Europe. Donc, en fait, quand on essaie de jouer en jeu NBA en France, ça marche pas. Ça marche beaucoup moins bien, en tout cas. Bon, après, à notre niveau, bien sûr. Donc voilà, les règles basket NBA sont plus là pour le spectacle, le showtime, tout ce que vous voulez, plutôt que pour le côté sportif. Après, ça, c'est selon moi, bien sûr. Je pense que tu as bien répondu à cette question, en vrai.
J'espère.
Tu as donné un peu des bons et des mauvais points. Et du coup, tu nous as tout à l'heure un peu parlé des Français qui allaient arriver cette année. On a un peu parlé de Wembanyama, de Wemby. Donc, est-ce que tu peux nous parler, en fait, de la place qu'a la France en NBA? Ou de nos Français? Est-ce que tu peux parler de nos Français en NBA?
On a toujours eu des Français en NBA depuis genre 20 ans. Enfin, 30 ans, on a toujours eu des Français. Mais ça n'a jamais été... Ça n'a jamais été le joueur qui va faire déplacer toute la ville au stade pour venir voir jouer le match.
Sauf Tony Parker.
Même à cette époque-là.
Parker était au...
C'était pas le franchise player.
Oui, mais
c'était un joueur que les gens... Par exemple, du coup, à cette époque, Tony Parker, il était avec Tim Duncan. Premier choix de draft, encore une fois. Je pense que moi, à cette époque-là, les gens venaient pour voir jouer Tim Duncan et ils disaient « Cool, on va voir Tony Parker en même temps. »
Bah, pas forcément, parce que Tony Parker a quand même été All-Star, donc c'est-à-dire parmi les 12 meilleurs joueurs de la ligue selon les fans.
Mm-hmm.
Ça veut dire qu'il était très très apprécié.
Il était très très apprécié. Donc oui, on a eu Tony Parker qui a allez, si tu veux, je te l'accorde, qui sort du lot, qui a été vraiment un bon joueur. Il a gagné 5 titres, il a gagné un MVP des finales, c'est donc énorme. Le meilleur joueur des finales NBA, ce qui était vraiment bien pour un Français. Mais à part ça, on a eu des bons joueurs français, mais pas de MVP ou de quoi rentrer dans le débat des meilleurs joueurs. Mais je l'accorde, on a eu Rudy Gobert. Rudy Gobert qui a été draft en 2013 en fin de premier tour, donc vers la 28e position, qui a gagné 3 fois le meilleur défenseur de l'année et qui part pour gagner son 4e cette année. Donc, ce qui est vraiment exceptionnel pour le coup, gagner 3 fois le meilleur joueur des défenseurs de l'année, c'est exceptionnel. Donc lui actuellement, il garde sa place de très très bon joueur dans les Minnesota. Sinon, c'est un peu moins glorieux. On a Evan Fournier, qui très bon shooter, mais qui joue plus trop, qui a beaucoup moins de temps de jeu parce que il rentre pas dans les plans de ses coachs. On a Nicolas Batum, qui joue aux Sixers, qui met 3 points de moyenne, très très bon shooter. Pour le coup, lui, j'aime beaucoup.
Ouais,
j'aime beaucoup comment il s'adapte au système de la franchise dans laquelle il arrive.
Il connaît son rôle, en fait.
Il connaît son rôle et il le fait super bien. Donc, non, Nicolas Batum, j'aime vraiment bien. Sinon, il y a Wembanyama, quoi.
Ouais, l'alien.
Qui fait une saison rookie de peut-être une des meilleures de tous les temps.
Bah, qui est terminée, d'ailleurs. Du coup,
terminé.
Donc, là, au moment où on enregistre ça, il reste un match de saison régulière. Donc, quasiment tout est joué, quoi. Bah, on va en parler un peu après. Donc, Wembanyama ne jouera pas le dernier match. Il est blessé. Donc, sa saison rookie est terminée. Et maintenant qu'elle est terminée, on peut le dire, c'est une des meilleures saisons rookie. Rookie qui est, en gros, le terme pour dire première saison NBA. Donc, un rookie. C'est l'une des meilleures saisons rookie.
De tous les temps.
De tout le temps. C'est assez exceptionnel ce qu'il a fait. On a aussi d'autres Français qui sont arrivés l'année dernière. Bilal Koulibaly, par exemple.
Bilal Koulibaly, oui, j'aime bien. Je dois parler du jeu en lui-même.
Pas obligé, non, tu peux juste dire un peu ce que tu veux.
Ok, bah, Bilal Koulibaly, joueur que j'apprécie beaucoup, pour la fun fact, il jouait du coup dans le même club que Victor Wembanyama l'année dernière,
ouais,
à Boulogne-Levallois, et il n'était pas attendu à être drafté si haut, parce que c'était du coup l'année où il a joué avec Victor Wembanyama à Boulogne-Levallois, c'était sa première année dans l'équipe A.
Ouais.
Il jouait en équipe B de Boulogne-Levallois, et il a été drafté en 7e position, donc grosse surprise pour tout le monde. Il a été au Washington Wizards, équipe qui a pas trop performé, mais du coup qui a pu montrer le talent de ses joueurs draftés, et très très bon défenseur et pied sur terre. Franchement, j'aime beaucoup.
Voilà, c'est ça aussi l'avantage d'arriver dans une franchise qui est nulle, on va dire, parce que ça fait que ils ont totalement le temps de développer leurs jeunes, et tous les jeunes ont de quoi montrer, en fait, parce qu'ils ont aucune pression. On parle pas de, par exemple, les Lakers ne peuvent pas se permettre de mettre que des jeunes sur le terrain pour qu'ils progressent, parce que c'est les Lakers, faut gagner, faut avoir une image, alors que même les Spurs, donc qui a été une équipe qui a tout gagné avec Tony Parker, aujourd'hui, ils sont une équipe nulle, même avec Wembanyama, et ils ont fait 20 victoires sur 80 matchs cette année. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais ça permet aux jeunes, comme Wemby, de jouer, de tout faire, de pouvoir faire ce qu'ils veulent sans pression. Cette année, c'est pas pour eux, ils le savent. C'est aussi ça qui est bien, c'est que vu qu'il n'y a pas de relégation, c'est que les équipes peuvent prendre le temps de construire un vrai truc et
ou tanker du coup.
Ou de tanker.
Il y a plusieurs plans de développement, enfin plan avant la saison NBA, en général les équipes choisissent ce qu'ils veulent faire, donc les équipes qui peuvent jouer le titre résistent, les mecs on joue le titre, et les équipes plus bas de conf qui savent qu'ils vont pas être dans la course au playoff, ils se diront on va tanker pour le premier choix de draft, ou si ils ont pas de choix de draft parce qu'ils ont fait des trades, ils se diront écoute, on va juste développer tous nos jeunes, quoi, on va mettre tous les jeunes sur le terrain, ce qu'avaient fait les Warriors en 2020.
C'est vrai que ouais, parce qu'il y avait des joueurs blessés. C'est vrai que, bien vu, tu viens de parler d'un truc qu'on n'a pas du tout expliqué. Comment ça marche, les transferts en NBA?
Alors en fait, les transferts en NBA, c'est assez ingrat.
Ça n'existe pas, déjà, le mot transfert.
Transfert n'existe pas, c'est trade.
Ouais, mais c'est pas
échange,
pareil.
Échange.
Transfert, c'est dans le foot. Par exemple, on ne peut pas acheter un joueur.
Voilà, c'est ça. Il y a eu quelques petites exceptions, mais ça, on va pas en parler. En fait, un joueur en NBA n'est pas libre de son destin tant qu'il est sous contrat. Si la franchise décide de faire un échange pour récupérer un autre joueur d'une franchise, du coup, les deux joueurs concernés n'auront pas leur mot à dire et devront être transférés dans la franchise où c'est décidé qu'il aille. Et du coup, ça fait que le joueur, c'est terrible pour lui. Il doit changer de vie. Il doit abandonner peut-être sa famille sur la saison.
Ouais.
Il doit trouver une maison dans la nouvelle ville, s'adapter du coup à un nouveau climat, on va dire, nouvelle équipe sur la saison.
Ouais.
Et c'est terrible, c'est terrible. Franchement, je trouve ça vraiment dur.
Moi, je pensais pas que t'allais me parler de ça. Mais oui, là, tu t'as parlé, entre guillemets, des mauvais côtés. Donc, c'est vrai qu'on a vu même des scènes cette année où les gars commencent à s'échauffer pour le match et on leur dit, ah non, non, au final, tu joues pas parce que tu viens d'être transféré à l'autre bout des États-Unis. Donc, c'est assez vénère. Mais je pensais que t'allais m'expliquer plutôt le concept du trade. Donc, en fait, le trade, on peut pas, donc, comme on l'a dit, on peut pas acheter un joueur. Donc, pour avoir un joueur dans une équipe, en général, on va parler d'un gros joueur. Pour avoir un gros joueur, on est obligé de donner d'autres joueurs. Donc, c'est pas obligé d'être un joueur de la même trempe, parce que sinon, ce serait tout le temps
non,
équilibré.
mais du coup, pour on va dire, imagine, j'utilise un terme, enfin, j'utilise des noms de joueurs techniques ou pas, du coup?
Là, tu. Non, ça. Enfin. Bah, vas-y, donne-en si tu veux. Vas-y.
Ok. Par exemple, actuellement, je sais pas, une équipe veut prendre Joel Embiid, le MVP en titre, le meilleur pivot pour l'instant, actuellement.
Ouais.
Une équipe veut avoir Joel Embiid. Je sais pas à combien s'élève son contrat, mais Joel Embiid, on va dire qu'il a un contrat à 50 millions. Donc l'équipe qui veut récupérer Joel Embiid va devoir soit mettre un gars de la trempe de Joel Embiid pour que les Sixers soient
Accepte.
acceptent, oui, parce qu'ils vont pas accepter un joueur nul entre guillemets. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut que le contrat de ce que les Sixers reçoivent soit égal au contrat de Embiid. Donc par exemple, mettre deux joueurs à 25 millions, ça permettrait que le contrat match. Et si les deux joueurs intéressent les Sixers, ils peuvent trade. Voilà, c'est comme ça que ça marche.
C'est pour ça que parfois on a des joueurs qui partent pour 3 joueurs à la place, quoi, quand ils ont des gros contrats. Mais aussi, on peut échanger autre chose, on peut échanger
Des pics de draft.
voilà, des choix de draft. Donc, ça veut dire que, par exemple, on sait qu'une équipe va être très mauvaise cette année. On va essayer de prendre ses choix de draft parce que on va avoir son choix. Et c'est déjà arrivé que des équipes qui soient cinquième du choix de draft doivent donner leur pick alors qu'ils avaient un très bon jeune joueur et ils sont obligés de donner une grosse équipe. Donc voilà, c'est hyper compliqué, c'est hyper complexe, mais c'est hyper intéressant les trades.
Et les trades, par exemple, des fois peuvent être vraiment dévastateurs.
Ouais.
Un joueur peut ne pas, enfin, avoir. On a des attentes de fou sur le joueur. On se dit, il nous faut dans notre équipe, il va performer. Et le joueur ne réussit pas. Du coup, déjà mentalement pour le joueur, c'est très dur parce qu'il a tous les fans à dos et il a sa franchise qui lui fait de moins en moins confiance. Mais aussi, le jeu dangereux aussi, c'est échanger des picks de draft. J'ai un exemple concret. Par exemple, dans les années 2000, 2015 à peu près. T'as les Boston Celtics qui vont échanger deux gros joueurs avant aux Brooklyn Nets. Et les Brooklyn Nets, pour avoir ces joueurs, vont échanger je sais plus combien de tours de draft sur l'avenir. Et du coup, les Boston Celtics, qui étaient premiers de leur conférence pendant ces années où les Brooklyn Nets auraient eu leur pick de draft, qui les Brooklyn Nets ne performaient pas, étaient en bas du tableau, et bah les Boston Celtics ont eu leur tour de draft et se sont retrouvés à avoir des joueurs du top 3 en étant top 1 de conférence.
Donc en fait, ils ont donné des bons joueurs, ils sont
Ouais.
restés bons, enfin ils sont restés en haut de la conférence en donnant leurs bons joueurs.
Non, ils étaient plus bons, c'était des vieux. C'était Kevin Garnett et Paul
Non mais
Pierce.
je veux dire, ils sont restés, l'équipe
Ah, et l'équipe
est restée
était
bon.
ouais, aussi solide. Mais plus solide, peut-être, je sais plus.
Et
Ils ont drafté Jason Tatum, leur franchise player actuellement, comme on a. Voilà, franchise player, le joueur de la franchise,
Ouais.
Jaylen Brown, et voilà.
Ok, bah nickel.
Ce qui a ruiné l'avenir de la franchise de Brooklyn Nets.
Ouais, toujours aujourd'hui d'ailleurs, qui est Brooklyn, qui est une équipe qui a du mal à se faire des fans, vu qu'ils sont en concurrence avec New York. On va parler, voilà, un peu de ce qui se passe actuellement. Donc ma prochaine question est cool de source, hein. Qu'est-ce qui se passe actuellement, Thiago?
Alors, ce qui se passe en ce moment NBA, c'est l'arrivée des playoffs. Le jour où vous regarderez ce podcast, ça sera une question de jour avant que ça commence, ou ça aura peut-être même commencé, je sais pas.
Du coup, ça commence le 20 avril, donc il y aura 3 jours.
Ok,
Il y aura
trois
trois
jours.
jours pour
Bah, ça
écouter.
sera les play-in, du coup.
Ce sera les play-in à ce moment-là, ouais.
Ce sera les play-in, je sais pas s'ils seront passés ou ils seront terminés. J'ai pas la date des play-in en tête.
Je sais pas, je ne sais pas. On est combien? On est 14.
Tu veux que je regarde en vif?
Non, mais attends, regarde, c'est très simple. On est le 14, c'est la fin de la saison ce soir. Donc les play-in, ouais, ce sera le 17. Peut-être que ce sera même le soir même.
Ok, bah allez regarder les play-ins du coup. C'est le tournoi avant qui permettront à deux autres équipes de rejoindre les playoffs comme on avait dit.
Ouais.
Bah du coup c'est les playoffs qui arrivent. Nous le jour où on tourne ce podcast, c'est la fin de saison, donc on n'a pas encore de certitude sur toutes les équipes qui vont aller en playoffs. Donc on va un peu se projeter. Bah c'est les playoffs qui arrivent mec.
Ouais, c'est ça.
C'est
Est-ce que tu peux donner peut-être des favoris de chaque conférence?
Alors, la conférence S, du coup, il y a Boston, grosse équipe, 68 victoires cette saison.
Une super team, quoi.
Une super team, voilà. Ils ont tous les meilleurs joueurs quasiment dans leurs équipes. Malheureusement, à l'Est, c'est la seule équipe que je vois performer parce que la conférence Est est assez faible. Peut-être les Sixers, à la rigueur, si Joel Embiid revient à son meilleur niveau.
Et aussi, bah, Milwaukee, mais...
Non, Milwaukee, je pense pas.
On verra. Franchement, on verra Milwaukee.
Et du coup, à la conférence Ouest, ma conférence préférée, parce que déjà mon équipe joue dedans, et c'est un bazar, pour pas utiliser de mots grossiers.
Oh, c'est clairement un bordel.
Ah, c'est un bordel, du coup, conférence Ouest. Je crois que entre la première place et la sixième place, il y a 5 wins qui différencient, ce qui est très très peu.
C'est ça. C'est hyper intéressant la conférence Ouest parce que de la première à la neuvième place en gros, non de la première à la dixième place, c'est hyper serré. Donc c'est hyper marrant parce que même là, on est donc au moment où on tourne ce podcast, il reste un match et on a trois équipes, les trois premières équipes qui ont le même bilan, qui sont à égalité. Ils ont 45 victoires, 25 défaites.
Plus 55.
Ah pardon, 55 victoires, 25 défaites. Donc c'est assez marrant. C'est très très drôle même.
Là, vous allez vous dire, du coup, le match de dimanche qui sera déjà passé pour vous malheureusement aura aucune importance. Mais si, parce que du coup, en NBA, en playoff, pardon, l'équipe au-dessus de l'autre, par exemple, du coup, la première équipe contre la huitième équipe, ça sera le premier tour. La première équipe aura l'avantage du terrain sur les deux premiers matchs.
C'est ça.
Elle aura le soutien des fans, elle se sentira à domicile, voilà. Pour ça que c'est important.
En fait, on joue c'est deux matchs dans un côté, deux matchs dans l'autre et tout. Et le septième match se joue toujours à l'équipe qui a commencé. Donc ça peut être un vrai avantage si ça va jusqu'en game 7. Du coup. Et il y a des équipes comme les Denver Nuggets qui, avec leur avantage géographique, vu qu'ils sont dans les montagnes et qu'il y a un peu moins d'oxygène, c'est un vrai truc vraiment. Et c'est l'équipe qui gagne le plus à domicile. Là-bas, c'est vraiment dur d'aller jouer là-bas. C'est dur de gagner là-bas. Et Denver va peut-être finir premier et donc avoir
tout. On ne sait pas. Là, on ne peut vraiment pas se projeter pour le coup. Enfin,
c'est pour ça que j'ai dit peut-être. On verra. On verra. Il y a une chance sur trois.
Voilà.
Donc voilà, ça c'est pour ce qui va se passer pour le début des playoffs. Qui est-ce que tu vois donc gagner à l'Est? Tu l'as dit, tu penses que ce sera les Boston Celtics assez largement. Ils ont très...
Ouais, Boston Celtics largement. Et s'il y a une surprise qui se passe, peut-être les Sixers ou les Bucks. Ouais, mais je ne pense pas qu'ils passent le premier tour, les Bucks.
Voilà, ça c'est donc pour nous à l'Est. Si vous voulez vous la péter devant vos potes en disant que vous connaissez la NBA, dites les Celtics vont gagner. Voilà.
C'est quasiment sûr, ouais.
C'est quasiment sûr, ils sont vraiment très très forts cette année, ils ont très très peu perdu. Mais qui est-ce que tu vois gagner à l'Ouest? Est-ce que tu peux un peu nous parler d'une équipe ou deux?
Qui je vois aller en finale?
Tu vois aller en finale?
Ah, c'est compliqué. Déjà, je vois Denver. C'est les champions en titre, ils ont gagné l'année dernière. Je les vois peut-être faire un back-to-back. Donc, gagner deux fois deux années d'affilée. Ou je vois peut-être Minnesota.
Minnesota, voilà, ok.
Minnesota.
Jeune franchise qui a.
Jeune franchise, mais qui a de l'expérience. Alors que le Thunder, trop jeune franchise pour moi.
Ouais, c'est ça. Thunder qui est aussi dans les trois premiers.
Ouais.
C'est un peu compliqué. Après, tu vois pas une autre équipe
Non. J'aimerais dire la Nouvelle-Orléans, les Pelicans, mais on a les armes pour pouvoir. Allez, deuxième tour peut-être, mais pas plus, je pense.
Ouais, franchement, je suis un peu d'accord avec toi. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Hein, c'est pas votre année, on va dire. Mais peut-être dans quelques années, hein, la franchise prend puissance. Voilà. Et donc, ma dernière question, c'est comment on regarde les playoffs, du coup, Thiago?
Comment on regarde les playoffs?
Comment toi, tu regardes les playoffs?
Comment moi, je vais regarder les playoffs?
Ou les matchs NBA?
J'ai le NBA League Pass. Donc, concrètement, on paye un abonnement à 17 euros par mois, c'est cher.
C'est 15 balles par mois. Ouais.
15 balles, effectivement. Moi, j'avais payé 17 euros le premier mois.
Ah, ok, autant pour moi.
Je sais plus pourquoi. Non, j'avais peut-être dû prendre une option, je sais pas. Donc, on paye un abonnement à 17 euros par mois ou on peut prendre un abonnement direct à l'année. J'ai pas le prix. Ça, c'est un peu moins cher.
C'est à peu près 300 euros.
Et en fait, c'est l'application officielle de la NBA. Du coup, tous les matchs sont diffusés. On a les interviews dessus. On a des petits podcasts comme on fait là pour savoir qui va gagner. Fait par des joueurs en plus, hein, les podcasts. On a des stories sur les matchs. C'est une application très complète et malheureusement, c'est le seul moyen légal de regarder la NBA en France. Ou il faut avoir Bein Sport, mais t'as pas tous les matchs.
C'est ça. Donc en France, on a Bein Sport qui a les droits des matchs NBA et qui les commente en français, ce qui est très très cool d'avoir des matchs commentés en français. Mais ça se limite à peu près un par soir. Et quand on a 8 matchs dans la nuit.
T'as pas le match que tu veux.
Déjà, en plus, normal, hein, faut comprendre Bein Sport. À quoi ça sert d'avoir les droits de tous les matchs quand parfois on a des matchs qui commencent à 4h30 du matin?
Je suis très fatigué, moi, à ce moment.
Voilà. Par exemple, là, il y a du coup Thiago qui a regardé le dernier match des Pelicans qui a commencé à quelle heure
4h30.
4h30. Le match, on va dire, ça dure 3 heures un match presque?
2 heures. Ouais, non, ça dépend en fait. S'il y a des prolongations ou non, avec les temps. Ouais, non, ouais, t'as raison, 3 heures.
En gros, 2h30, 3 heures. Donc voilà, ça, c'est très très long. Les seuls matchs que vous pouvez regarder en vrai, quand
c'est le dimanche.
On est tranquille, ouais, c'est le dimanche. Parce que le dimanche, aux États-Unis, ça se joue à midi 13 heures. Et donc en France, on les a à 20h, 21h30.
Ouais, il y a même des matchs qui commencent à 18h des fois.
Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment cool.
Le dimanche.
Fait que, bah, là, en général, ces matchs sont tous sur Bein, sur Bein Sport du coup.
Ok, je savais pas ça.
Et pour le League Pass, donc ce qu'il disait Thiago, c'est le moyen d'avoir tous les matchs, tous les trucs, toutes les stats et tout. C'est assez exceptionnel. Mais si vous devez l'acheter, ne le prenez pas en France. C'est une arnaque, ça vaut trop cher. Prenez un VPN et prenez-le en Inde. C'est 17 euros l'année là-bas.
Punaise.
Donc, non mais alors, Thiago, on est entre nous. C'est un podcast. En fait, non mais pour de vrai, je t'explique, c'est que en podcast, t'as une liberté en termes de mots. Ok.
Tu
peux. C'est beaucoup plus tranquille que TikTok ou YouTube.
Ok, je sais pas.
Tu peux dire n'importe quoi. Quasiment, il y a rien qui sera censuré.
Ok.
Voilà.
Donc prenez en Inde.
Prenez en Inde du coup. Voilà, vous pouvez le prendre en Inde. C'est carrément plus pratique.
Moi, je le prendrai en Inde l'année prochaine.
Moi aussi, je vais le prendre en Inde l'année prochaine parce que c'est assez fort. Et ben, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu veux peut-être nous parler d'un dernier joueur? Moi, j'aimerais bien peut-être que tu parles d'un joueur, je sais pas qui, mais j'aimerais bien. Un petit joueur.
Je vais parler de Zion Williamson. je suis désolé.
J'ai coupé.
Lucas, je le connais dans la vraie vie et je le saoule tous les jours avec Zion Williamson. Parce que lui, son joueur préféré, c'est le rival de Zion Williamson, entre guillemets, Ja Morant. Zion Williamson, c'est mon joueur préféré, tout simplement, parce que j'ai commencé à regarder le basket avec lui. Je regardais des edits sur TikTok, à la base, pas très glorieux. Mais lui, en high school, du coup, dans les, on va dire, études sup, quand il jouait au basket au lycée, il était trop fort, il dominait, il mettait des dunks sur la tête des gens, il mettait des paniers. Cyril Ngannou tape des gens pour vivre. Zion Williamson faisait pareil. Donc, ça m'a émerveillé. Il a été drafté en première position en 2019. Il a pas eu un parcours assez facile, on va dire, en NBA jusqu'à maintenant.
Beaucoup de blessures.
Ouais. Sujet à beaucoup de moqueries par rapport à son poids aussi.
Pour moi, qui était mérité, mais ok.
Non, okay. Pas mérité. Les moqueries, c'est jamais mérité.
Non, c'est pas mérité. Mais dans le sens où on est un joueur NBA, c'est censé être un big athlète. Et le gars, à un moment,
les reproches auraient été mérités, mais les moqueries, comme il a vécu, c'était du harcèlement, limite.
Ouais, c'est vrai qu'il a vécu du harcèlement.
Bon, il fait 1m98, il fait 130 kilos. Bref. c'est un bloc. Ok.
C'est
un cube Minecraft. Mais non, il s'est blessé à cause de ce poids. Ses jambes ne tenaient pas. Sur son année rookie, il a joué 20 matchs, peut-être, 28 matchs, je pense. Ce qui lui a valu le rookie, enfin, ce qui lui a pas valu de prendre le rookie de l'année. Sur sa deuxième saison, il a joué 68 matchs, pas mal.
Pas mal.
Sur sa troisième saison, saison blanche.
Voilà.
Sur la saison où j'ai commencé à suivre le basket vraiment, du coup, il a joué 28 matchs. Comment j'étais dégoûté, j'avais la haine.
Ah, tu m'étonnes. En plus, au début, il était très bon.
Il était trop bon, il était dans le top 10 MVP.
D'ailleurs, voilà, petite dernière question. Tu peux un peu expliquer les différents prix que tu peux avoir, ouais.
Ouais. Alors, les récompenses en fin d'année ou même les récompenses
toutes les récompenses que tu peux avoir dans l'année.
Alors, très simplement, tous les joueurs sont éligibles pendant l'année à recevoir le prix du joueur de la semaine. Donc c'est dans le nom, c'est le joueur qui a le plus performé de la semaine. Ça tient pas qu'au joueur aussi. Cette récompense, tu peux l'avoir en ayant un très bon bilan aussi. Enfin, faut avoir un très bon bilan sur la semaine aussi, gagner ses 4 matchs par exemple.
Ouais.
Ensuite, tu as le joueur du mois du coup. Qui pareil, du coup, c'est exactement...
C'est le joueur qui est le meilleur du mois.
C'est une extension du joueur de la semaine.
Merci, Thiago.
T'as le All-Star, du coup. C'est les meilleurs joueurs pendant la première partie de la saison. Donc, de octobre à février.
Choisi par les fans.
Choisi par les fans, choisi par les coachs et choisi par
les joueurs.
Les inside, ouais, les joueurs, ouais.
Ce qui est marrant, du coup, c'est qu'on a tous les ans, quelle que soit sa saison, il y a toujours les LeBron James.
Ouais, ça fait 20 ans, il est All-Star.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Bon, la domination... Du coup, si tu fais une très bonne partie de saison, tu peux être All-Star et chier ta deuxième partie de saison.
Ouais, ça arrive.
Ça arrive souvent, même.
Ouais.
Je reviens un petit peu en arrière. T'as pareil pour les rookies. Du coup, t'as le rookie de la semaine et rookie du mois.
Ouais.
Et du coup, en fin de saison, t'as différents trophées. T'as le MVP, le meilleur joueur de la saison. Le bilan de ta franchise fait aussi partie de qui aura la décision, enfin, qui le sera.
Mmh.
Par exemple, un joueur avec un bilan à 30, 80, 30-52 et un joueur en 78-4, tu peux être sûr que ce soit le joueur en 78-4. Ouais.
Parce que c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
T'as le défenseur de l'année, du coup, le joueur qui sera désigné comme le meilleur défenseur de l'année, décisif en défense, du coup. Les stats montrent aussi, le bilan aussi, du coup, compte pour...
Meilleure défense, le meilleur défenseur de la meilleure défense.
On a aussi, du coup, la meilleure progression. Donc, un joueur qui, d'une saison à l'autre, va se transformer, va vraiment passer... inconnu, visage inconnu. Mais qui est ce joueur? Qui est ce joueur?
On peut juste pas l'être les deux premières saisons, parce que c'est une question de logique. Hein. Les deux premières saisons, c'est là où on progresse.
Ouais.
C'est ça.
Du coup, ouais. T'as le rookie de l'année, du coup.
Rookie
de l'année.
Wemby, cette
année. Qui sera Wembanyama, on espère. La décision n'est pas encore validée. Là où on tourne, bien sûr. T'as le joueur clutch de l'année.
Ouais, c'est ce que... Alors là, ouais. Faut vite fait que t'expliques.
Alors, le joueur clutch de l'année, c'est le joueur le plus décisif de l'année. Genre... Les standards et les situations qui vont faire que tu vas être joueur décisif de l'année, c'est ta capacité à garder la tête froide pendant le quatrième quart-temps.
Ouais.
Ta capacité à faire gagner ton équipe pendant le quatrième quart-temps.
À mettre des points compliqués, des points décisifs.
Ouais.
Voilà. Et c'est super cool en vrai, ce trophée. Pour moi, il est un peu inutile.
Pour moi, c'est mettre un trophée pour avoir un trophée.
C'est ça. Mais en vrai, c'est cool parce que. En vrai, l'année dernière, qui était la première édition, je trouvais que c'était plutôt cohérent.
C'était qui? C'était Damien Lillard ou
D'Aaron Fox?
D'Aaron Fox,
qui avait mis donc des 3 points à la dernière seconde, qui en avait mis 2. Ce qui est quand même. Milieu de terrain. Le gars tire au milieu de terrain, il marque et il faut gagner. Et en dernier trophée, t'as deux derniers trophées. C'est le MVP de la conférence, donc en finale de conférence.
Ouais, ok. T'en as 4 du coup de trophées.
T'as quoi d'autre?
T'as MVP de conférence Est-Ouest. T'as trophée NBA, du coup, le meilleur joueur. Tu parlais de récompense individuelle.
Ouais, mais ça marche aussi.
Du coup, t'as trophée NBA et t'as le MVP des finales.
C'est ça.
Qui, en général, le MVP des finales est le meilleur joueur de l'équipe qui a gagné. C'est pas fataliste. Tu peux être MVP des finales en étant dans l'équipe qui a perdu. C'est arrivé qu'une seule fois, Jerry West.
Ouais.
Avec les Lakers, j'étais même pas né. Mais en général, c'est le joueur. Le meilleur joueur de l'équipe qui a gagné le MVP des finales.
Ouais. Et en plus, il y a un truc un peu cool. Vraiment, ça, c'est exceptionnel. J'aimerais bien que ça soit mis en France. Quand tu gagnes le titre, tu as évidemment le trophée. Mais tu as aussi, par joueur, une bague légendaire.
La bague de champion.
Trop classe. Elle est souvent, elle coûte très, très, très cher. Et elle est très jolie à chaque fois. Donc, elle est customisée.
Personnalisée pour tous les joueurs.
C'est ça. Et donc, c'est trop, trop cool. Et on a des joueurs qui ont gagné, par exemple, Michael Jordan, qui en a 6, qui a gagné 6 fois. Et le gars a 6 bagues au doigt. Enfin, il les porte pas parce que, évidemment, elles sont hyper lourdes et tout. Elles sont pas portables dans la vie de tous les jours, mais.
T'as Bill Russell aussi qui en a 11. Bon, lui, il les porte pas parce que malheureusement, il est décédé.
Et il a pas assez de doigts. Il n'avait pas assez de doigts en plus. Mais bon. Voilà. Je crois qu'on a fait vraiment le tour cette fois. Est-ce que t'as un dernier mot pour la fin ou c'est bon?
Regardez la NBA, branchez-vous NBA, c'est meilleur que le foot.
Voilà.
Non, branchez-vous basket, c'est mieux que le foot, pardon.
Très bon mot pour finir. Donc j'espère qu'on vous a donné envie soit de regarder la NBA ou au moins qu'on vous ait permis de mieux comprendre et je sais pas, peut-être de vous y avoir mis. Ça se trouve, demain vous allez venir nous parler de NBA. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram, je réponds à tout le monde évidemment. Franchement j'ai kiffé faire ça avec toi, merci Thiago.
J'espère que j'ai été assez clair, parce que je vous avoue que c'est la première fois de ma vie, enfin